Écoutez lire présente
Mon tour de manège de Gilles Le Gardinier, lu par Élise Moussion. Chapitre 1. Une bonne chose de faite. Enfin, si j'ose dire. On se satisfait comme on peut. Je m'étire en me laissant aller contre le dossier de ma chaise. Dehors, il fait nuit, un peu froid. Depuis le modeste bureau aménagé dans un coin de mon appartement, je perçois la rumeur de la ville. J'en connais le tempo. J'ai bien assez de temps pour l'écouter. En ce début de soirée, je sais que l'animation du quartier ne va pas tarder à s'apaiser. Dès que les gens auront terminé leurs derniers achats et rentreront chez eux. Pour ma part, je suis déjà à la maison puisqu'aujourd'hui j'ai fini à 14h. Devant moi sont alignés mes relevés de compte et mes factures. Tout est pointé, vérifié, en ordre. Aucun problème, rien ne dépasse. Ma vie peut officiellement être déclarée comme parfaitement rangée. Pas de quoi triompher pour autant. C'est surtout dû au fait qu'elle est simple. Plus que je ne le voudrais. J'ai cuisiné à l'avance tous mes repas pour la semaine. Aucune lessive en attente. Techniquement, je suis en vacances jusqu'à demain matin. Un boulevard s'ouvre à moi. Énorme. Je suis libre de faire ce qui me chante durant les 12 prochaines heures. En songeant aux mille façons délirantes dont je pourrais utiliser ce temps, je suis prise d'un enivrant vertige. Quand je pense à ce que je vais en faire concrètement, l'enthousiasme retombe comme un flanc sur du carrelage. Sans compter que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Je ne dois pas plaisanter avec ça, sous peine le lendemain de confondre les gens et les objets. Jusqu'à parler à mon patron comme au chat de la voisine, en lui gratouillant le menton. J'ai déjà été à 2 doigts de le faire. Je rejette néanmoins catégoriquement l'idée de me coucher tout de suite ou de confier mon cerveau à la télé. Autant m'enterrer vivante. Je sens rôder autour de moi l'un de ces moments dont je me méfie. L'instant où, n'ayant plus de grain à moudre, je vais me retrouver en situation de prendre du recul. Par pitié, surtout pas. Revoilà le spectre du BPP, bilan personnel permanent, qui plane. Abominable perspective, le dernier ne datant que de quelques heures. Loin d'être dépressive, j'ai simplement l'impression de passer à côté de ma vie. Tous les matins, le soleil se lève, mais aucune grande aventure ne démarre. Je suis à l'heure, je paye ce que je dois, je me présente là où je dois être, et je fais ce que je peux pour les gens que j'aime. Pour le reste, je cherche, j'imagine, j'espère, mais ça ne me mène pas plus loin qu'à mon appart où personne ne m'attend. Je suis une sorte d'oiseau migrateur qui s'efforce sans relâche de voler vers des contrées plus hospitalières où il pourra couler des jours heureux. Mon instinct m'assure qu'elles existent, sauf que je ne sais pas où elles sont, ces satanées contrées. Je n'ai même pas une vague direction pour me guider. Parcourir des milliers de kilomètres ne me fait pas peur. Ce sont les étapes qui m'angoissent. Les entre-deux où l'on se pose, sans carte et en ignorant combien de bornes il va encore falloir battre des ailes. J'avance, sans but précis, avec pour unique moteur le désir de trouver enfin ma place. Quand est-ce qu'on arrive? Avec qui? Ce soir, je suis posée dans mon F2 financé à crédit, une sorte de branche au 3e étage, sans boussole ni repère, attendant qu'une aube veuille bien m'éclairer. Je sais que je ne suis pas la seule créature à chercher ce paradis promis. Nous sommes des millions à envisager de construire un nid pour peut-être faire un 9 ou 2. Pas au plat. Si ma vie ressemblait à une soirée dansante, je me trouverais pile à l'instant où l'orchestre marque une pause entre 2 morceaux. Bien qu'encore jeune, j'ai déjà vécu quelques rocks endiablés et chaloupés sur plusieurs bossa nova. J'ai aussi beaucoup valsé, jusqu'à finir dans le décor. Je suis curieuse de savoir ce que les musiciens comptent jouer ensuite parce que ces derniers temps, le silence devient assourdissant. Au point que je préférerais entendre n'importe quelle musique plutôt que l'écho de mes pensées. Quelqu'un aurait-il le programme? Je me prends à rêver d'imprévu, d'inattendu. Pourquoi pas de révolution? Mais je me garde bien d'y songer trop précisément parce que j'ai déjà eu l'occasion de constater que parfois, ce que je souhaite vraiment finit par se produire et qu'ensuite, le résultat m'échappe totalement. La première fois, c'était au collège. Le jour d'une interro de maths cruciale puisqu'elle allait se traduire par l'unique note du trimestre. Je n'étais pas du tout prête. Mon programme de révision avait pourtant été bien conçu, mais absolument pas respecté. Tout ça pour les beaux yeux d'un garçon. En général, quand ça déraille dans nos vies, ils ne sont jamais loin, et ça commence très tôt. À l'époque, je l'ignorais encore. Depuis, j'ai appris que de toute façon, qu'ils soient là ou non, ils nous font souvent faire des choses que l'on ne devrait pas. En l'occurrence, celui-là était bien présent, et le problème n'est pas ce qu'il m'a fait faire, mais plutôt ce qu'il m'a empêché d'accomplir. Mettez-vous à ma place. Entre aligner les exercices de maths et aller l'encourager à sa compétition d'athlétisme en espérant qu'en cas de victoire, il vous embrassera peut-être, que choisiriez-vous? Résultat, je n'ai rien fichu pour préparer l'interro. De toutes mes forces, j'ai prié pour que le prof se casse une jambe ou se fasse kidnapper par le front de libération des équations non résolues. Lorsque la surveillante nous a annoncé qu'il serait malheureusement absent, étrangement, ce n'est pas la joie qui m'a submergée, mais la culpabilité. J'ai imaginé le pauvre bougre retenu en otage par un chiffre 6 psychopathe qui lui pointerait une racine carrée sur la tempe, ou dévoré par une horde de fourmis rouges à la solde de mes désirs. Les enquêteurs allaient tomber sur son squelette, impeccablement décapé dans une ruelle sordide, tenant le sujet du contrôle dans ce qui lui restait de main. Un crime parfait dont je serais l'instigatrice par la seule force de ma pensée. Je vous jure que je me suis posé des questions. Avais-je ce pouvoir? Fallait-il le vendre sur eBay? Était-il honnête d'asservir le destin du monde au seul bénéfice de mes petits intérêts? J'ai obtenu un semblant de réponse dès le lendemain, vers 8h30, lorsque le prof a réapparu. Nous n'avons jamais réussi à savoir pourquoi il avait été absent, mais on s'est pris le contrôle. 2/20. Et je ne me souviens même plus du prénom du garçon. Je me rappelle simplement que lui avait gagné sa compétition et qu'au lieu de m'embrasser, il avait sauté dans les bras de ses potes. De ces années, j'ai retenu de nombreuses leçons concernant les mâles et nos relations avec eux. À leur sujet, mon enthousiasme sauvage associé à une crédulité absolue s'est mué en un fragile espoir de finir par en dénicher un pas trop pourri. Je suis passée de la chasse au grand fauve dans les plaines infinies à la traque du yéti en doutant régulièrement de son existence. Parfois, j'ai froid. Au-dessus de mes factures et relevés, mon regard se pose sur une photo. Pas celle avec mes parents et ma sœur, ni celle de ma bande de copines. L'image qui m'attire est d'un autre genre. Elle m'accompagne depuis toujours. Au-delà d'un souvenir d'enfance, c'est un véritable doudou visuel. Le cliché parfait d'un chaton qui saute avec toute l'énergie de son jeune âge pour tenter d'attraper un papillon. La scène a été immortalisée dans un écrin d'herbe tendre au cœur d'un printemps idéal. L'adorable félin est pelucheux à souhait et les ailes du papillon éclatantes dans la lumière. Je devais avoir environ 5 ans lorsque je l'ai découverte dans une des revues que me rapportait mon père. C'était l'un de nos rituels du soir lorsqu'il rentrait du travail. Je l'attendais avant de m'endormir. Nous lisions tous les deux, ou plutôt je l'écoutais me faire la lecture. J'adorais ces moments ensemble. Lui assis sur le bord de mon lit et moi blotti dans mes oreillers. À l'époque, l'image m'a instantanément fait éclater de rire. Elle m'a fascinée. Jour après jour, son effet ne s'est pas démenti. Je demandais tous les soirs à la revoir. Pour me faire plaisir et la protéger, quelques mois plus tard, papa l'a finalement encadrée. Sans doute l'un de ses cadeaux qui m'a le plus émue. Et il y en a pourtant eu beaucoup. Son sourire tendre et complice en me tendant le paquet reste gravé dans ma mémoire. Depuis, ce modeste cadre est finalement le seul objet que j'ai constamment gardé avec moi, même quand on avait refait ma chambre au moment du grand chambardement de l'adolescence. Il m'a suivi lorsque je suis partie faire mes études, puis quand j'ai emménagé ici. Il y a dans cette scène la magie d'une réalité saisie au vol. Je l'aime toujours autant car rien qu'en la regardant, je me sens aussitôt proche de mon père. Comme au soir où je l'ai vu pour la première fois. Comme si l'élan de cette réjouissante impulsion résistait aux bourrasques qui ont depuis balayé mon parcours. Un lien direct avec le pays béni de l'enfance. Un trésor que la réalité de la vie n'a pas réussi à brader aux enchères. J'observe l'image. Comme pour toutes les photos qui nous touchent profondément, la perception que l'on en a évolue, nous renvoyant à ce que l'on est devenu au fil du temps. Même après des années, un nouveau détail surgit toujours immanquablement. Ce que l'on comprend change aussi. Inutile de se mentir. Le papillon n'est plus de ce monde depuis longtemps, et le chaton est devenu au mieux un bon gros matou à la longévité exceptionnelle, mais plus probablement un émouvant souvenir pour ceux qui l'ont aimé. D'autres paramètres sont venus éclairer la scène, au point de la réécrire. Enfant, je n'y ai vu qu'un jeu naturel qui me faisait rire. Mais en grandissant, j'ai compris que si le félin s'en donnait à cœur joie, le papillon, lui, risquait sa peau. Suivant que l'on se place du côté de l'un ou l'autre des protagonistes, la perspective se modifie radicalement. La pauvre bestiole qui volait de toutes ses forces pour survivre a dû éprouver la peur de sa vie. S'en est-elle seulement sortie? C'est avec cette image que j'ai compris que même la situation la plus innocente, la plus rigolote et la plus évidente en apparence, ne peut se résumer à une seule lecture. La perception dépend du point de vue. À partir de là, j'ai accueilli mes sentiments, même les plus sincères, avec une sorte de prudence, un filtre, comme si je les déployais en terrain miné. Beaucoup m'ont d'ailleurs explosé à la tête. Un tintement étouffé me tire de mes songeries. On vient de sonner à ma porte. Je n'attends personne. Sans doute ma voisine âgée qui vient sous prétexte de m'emprunter du beurre ou de la farine. Elle se sent seule en cette fin d'automne. Et je la comprends.